Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Noéla Luzitu Kabambi.
En RDC, la situation des droits humains est toujours extrêmement difficile. C'est ce que dit le rapport 2024 d'Amnesty International sur la situation des droits humains dans le monde publié mardi. Le rapport accuse aussi bien les groupes armés que les FRDC d'avoir tué des civils. 38 000 cas de violation des droits de l'homme rien qu'en 3 mois au Nord Kivu ont été enregistrés selon Amnesty International. Lancement officiel ce mercredi à Kinshasa par le chef de l'État des travaux de modernisation de la maternité de Kintambo. Ils seront exécutés par des anciens délinquants urbains dits Kuluna, formés et enrôlés au service national. Coût des travaux, 7 100 000 dollars américains déboursés par la présidence de la République. Le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbou et l'invité de Radio Okapi ce matin. Il revient sur des perturbations constatées à Kinshasa dans le ravitaillement des stations-service. Bonjour à tous. En RDC, la situation des droits humains est toujours extrêmement difficile. Les attaques de grande ampleur menées par des groupes armés et les forces de sécurité congolaises contre des civils persistent, alimentant une crise humanitaire qui a entraîné le déplacement de près de 7 millions de personnes et la fuite à l'étranger des milliers d'autres. C'est ce que révèle le rapport 2024 d'Amnesty International sur la situation des droits humains dans le monde publié mardi. Les violences sexuelles ou fondées sur le genre sont restées très fréquentes. Plus de 38 000 cas ont été signalés au premier trimestre de cette année, rien que dans la province du Nord Kivu, précise le rapport. Un condensé de ce rapport 2024 d'Amnesty International avec vous, Alain Irung.
Ce rapport indique que les droits à la liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association ont été régulièrement bafoués. Les autorités ont soumis des journalistes, des membres de l'opposition et des militants, entre autres, à des détentions arbitraires et des procès iniques. Dans la province du Lualaba, des projets miniers ont conduit à l'expulsion forcée des milliers de personnes, les privant ainsi non seulement de leur logement, mais aussi de leurs moyens d'existence, tandis que des populations autochtones ont subi des expulsions sous prétexte de conservation, souligne le rapport. Le conflit armé continue de porter grandement atteinte aux droits des enfants à l'éducation. Une forte surpopulation règne dans les prisons et les conditions de détention y sont généralement déplorables. Aucun progrès véritable n'a été accompli pour amener les responsables présumés des crimes de droit international et d'autres graves violations des droits humains à répondre de leurs actes et pour rendre justice aux victimes, conclut le rapport.
Contacté, le ministre des Droits humains promet de réagir incessamment à ce rapport d'Amnesty International. Et puis de son côté, l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, adressé hier mercredi devant le Conseil de sécurité, un tableau alarmant de la situation dans l'est de la RDC, marqué par les tensions persistantes entre la RDC et le Rwanda, avec un risque d'embrasement régional. Wang Xian, dans un exposé devant les membres du Conseil, s'est dit préoccupé par la gravité de la situation, marquée notamment par l'intensification du conflit et la détérioration inquiétante de la situation humanitaire dans l'est de la RDC. À cela s'ajoute, dit-il, la persistance de la rhétorique de confrontation entre la RDC et le Rwanda sur fond d'accusations réciproques des plans de déstabilisation et la flambée des discours de haine. M. Xia a noté que par ailleurs, les tensions entre le Burundi et le Rwanda, liées étroitement à la situation dans l'est de la RDC, aggravent encore la situation préoccupante et compromettent les progrès significatifs enregistrés depuis 2020 dans les relations entre ces deux pays. Dans la province du Kwilu, la nouvelle société civile du territoire d'Idiofa monte au créneau pour dénoncer des meurtres devenus récurrents ces derniers temps dans cette cité. Au moins une dizaine de meurtres y sont enregistrés en moins d'un mois, rapporte sur mercredi le coordonnateur de la nouvelle société civile d'Idiofa. Il s'agit de meurtres commis soit par des éléments de la police, soit par des civils, précise Arsène Kassiama. Il en appelle à l'intervention des autorités sécuritaires et judiciaires pour mettre fin à cette situation. On l'écoute au micro d'Irène Boma.
Comme les jeunes ont été arrêtés, les jeunes gens ont vu qu'on a arrêté leurs camarades, ils sont descendus pour aller libérer leurs camarades. Le commandant voyant cela, il a commencé à tirer en l'air. Il a tiré les premières balles et allé atteindre une jeune fille de 5 ans. La fille a succombé sur place. Et il a commencé encore à tirer. Et il y a eu deux papas qui sont décédés. Donc les jeunes gens voyant d'abord la perte de la mort de cette fillette-là, ils ont vu un messager assimilé au rang de la police et ils l'ont lapidé et ils l'ont tué. L'événement a fait au total 4 morts. Aujourd'hui, nous pouvons compter plus d'une dizaine de morts dans le territoire du Diofa, plus d'une dizaine de morts. Donc, à l'espace même des mois, donc à l'espace de quelques semaines, donc toujours des morts que nous enregistrons. Nous faisons appel à l'auditorat pour venir mener des enquêtes minutieuses parce que c'est trop, vraiment trop, c'est trop. Les pillages, les tueries, nous en avons assez.
Tous nos efforts pour avoir la réaction de la police sont restés vains. En Ituri, le programme de réparation des victimes ordonné par la Cour pénale internationale CPI à travers le fonds au profit des victimes des massacres de Bogoro en Ituri s'est clôturé ce mercredi à Bunia dans l'affaire Le procureur contre Germain Katanga. C'était en présence de plusieurs délégations des ambassadeurs des États partis au statut de Rome et des autorités de la CPI. Au cours de cette cérémonie, des survivants de ces tueries qui avaient fait près de 300 victimes ont demandé aux autorités du pays de mettre fin aux atrocités que commettent encore actuellement les groupes armés. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
C'est précisément 297 personnes, selon la CPI, qui avaient été abattues le 24 février 2003 par des éléments de la milice FNI, Front des Nationalistes et Intégrationnistes. Aujourd'hui, mère au foyer, l'une des rescapées, se souvient encore de ce jour où elle a perdu ses parents et autres membres de famille. Grâce au fonds reçu, elle a pu refaire sa vie et tourner la page de ce drame.
J'avais obtenu un fonds de la CPI à titre des réparations pour une valeur de 3 vaches. J'avais vendu ces vaches et avec cet argent, j'ai construit une maison que j'ai fait louer. Actuellement, je vends des chaussures et c'est grâce à cette enveloppe du fonds au profit des victimes.
Au nom des victimes de Bogoro, le professeur Bagamba Arali demande au gouvernement de restaurer la paix et la sécurité en vue de permettre à des milliers d'autres victimes de reprendre une vie normale.
Nous demandons la pacification totale de notre milieu de vie en vue de nous permettre de reprendre nos activités économiques. Secundo, désarmer toutes les personnes et milices qui possèdent illégalement des armes à feu. Sans cela, la pacification de la région sera impossible.
Le gouverneur de province a réconforté toutes les victimes de violences perpétrées par des groupes armés en Ituri en les rassurant que le gouvernement s'emploie à restaurer la paix. Le général Johnny Luboya invite la population iturienne au pardon pour ouvrir la voie à la réconciliation. Mounia Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, les leaders d'opinion, ceux de la société civile, les représentants des déplacés, les cadres de base et autres catégories de la population sont désormais impliqués dans la recherche des solutions à la problématique de l'insécurité dans la ville de Goma et ses environs. Ces acteurs socio-politiques sont en réunion mixte avec le comité restreint de sécurité en vue de trouver des solutions coordonnées avec les autorités. Sous la direction du vice-gouverneur de province et des experts des services de sécurité, ces acteurs produiront des recommandations lors de la clôture de ces assises de 3 jours. Sifa Maguro nous en dit plus.
C'est au regard du tableau sombre de la situation sécuritaire dans la ville de Goma et les territoires de Nyiragongo, Masisi et Rutshuru que le vice-gouverneur a tenu à consulter la population à travers ses leaders afin de trouver une réponse sécuritaire efficace. Pour Placide Nzilamba, membre de la société civile, ces échanges sous forme d'ateliers étaient d'abord consacrés à la capacitation des leaders locaux en matière de gouvernance sécuritaire, la théorie du triangle sécuritaire et d'autres notions. Ce, avant de poursuivre en carrefour pour diagnostiquer les vraies causes du problème et sortir des recommandations à adresser aux autorités. Les vice-gouverneurs, les commissaires divisionnaires Jean-Romuald Ekuka Lipopo a exhorté les participants à contribuer efficacement au renforcement des mesures de sécurité en faveur de la population et leurs biens. Rappelons que la ville de Goma et ses environs font face à une insécurité criante à la suite d'une forte circulation illégale d'armes. Des cas d'assassinat, de kidnapping et d'extorsion sont enregistrés tous les jours. Goma Sifa Maguro, Radio Okapi.
Lancement officiel ce mercredi à Kinshasa par le chef de l'État des travaux de modernisation de la maternité de Kintambo. Ils seront exécutés par des anciens délinquants urbains dits Kuluna, formés et enrôlés au service national. Coût des travaux, 7 500 000 $ américains. Durée prévue, 24 mois, mais le service national s'engage à les finir en 18 mois. Le financement vient de la présidence de la République, Babel Mpongo Masimango.
C'est la joie pour le personnel de cet hôpital. Il a exprimé par des ovations qui ont ponctué cette cérémonie.
Satisfaction également de sa directrice, Dr. Brigitte Toupela. Elle relève ici l'importance de ses travaux.
Conçue avec une capacité de 250 lits, la maternité de Kintambo fonctionne à ses jours avec 110 lits montés. La modernisation de ces bâtiments va offrir à la mère les meilleures conditions pour donner la vie et au nouveau-né un environnement sécurisé.
Mais en quoi consisteront ces travaux? Le général Jean-Pierre Kasungo, commandant du service national.
La construction d'un immeuble et des étages, la modernisation de l'ancien bâtiment. Le nouveau bâtiment regroupe entre autres la salle d'accouchement où deux parturientes peuvent délivrer simultanément les chambres d'hospitalisation. En ce qui concerne les anciens bâtiments, les renouvellements de la toiture, le réaménagement des espaces internes, la maternité verra sa capacité passer de 110 à 250 lits montés.
Ceci rentre dans le cadre du programme de la maternité gratuite. Les ouvrages seront exécutés par des éléments du service national ancien délinquant urbain dit Kuluna, spécialisé actuellement dans différents secteurs dont la construction.
Bâtisseur de la nation, notre serment.
Restons dans la partie ouest du pays. La cité de Bassankoussou, dans le sud-est de la province de l'Équateur, a connu mardi soir d'énormes dégâts matériels. C'est la conséquence d'un vent violent qui a soufflé pendant qu'il pleuvait. Le bilan provisoire dressé par les autorités est de plusieurs blessés, des édifices publics détruits ou endommagés et des maisons d'habitation détruites également, causant de nombreux sans-abri. Depuis Mbandaka, Paul Richard Malengela.
L'administratrice du territoire de Bassankoussou, qui a livré l'information, a indiqué que mardi vers 15h locale, une pluie torrentielle s'est abattue sur la cité. Mais l'ouragan qui l'a accompagnée a plutôt causé d'énormes dégâts sur son passage, notamment une dizaine de personnes blessées, soit brûlées, soit fracturées, et qui sont encore admises à l'hôpital. Il y a aussi des centaines de sans-abri, a ajouté Madame Odile Mbella. À propos des dégâts matériels, notre source a parlé d'abord de la destruction du bâtiment administratif du territoire, lequel a perdu toute la toiture emportée par l'ouragan, tandis que plusieurs mobiliers et documents ont été également endommagés par la pluie. Entre-temps, 80 habitations se sont écroulées, y compris 3 églises, 3 établissements d'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que 12 écoles primaires et secondaires dont les toitures ont été abîmées. Avec ce bilan provisoire, l'acte de Bassankoussou estime que plusieurs activités socio-économiques de sa juridiction resteront encore paralysées. C'est pourquoi Odile Mbella a lancé un SOS. Elle sollicite l'appui d'urgence des autorités provinciales et nationales en faveur des sinistrés. Mbandaka pour Chamanigé, la radio Okapi.
Processus électoral. De passage ce mercredi à Kananga pour quelques heures après Mbujimayi, le président de la CENI souhaite que les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs prévues le 29 avril se déroulent dans la transparence. Appelant la population à accompagner ce processus, Denis Kadima recommande aussi aux députés provinciaux et aux candidats dans la course d'éviter la corruption pour voter ou se faire voter. Denis Kadima, dans cet extrait choisi par François Kadima.
J'ai voulu transiter ici, rencontrer l'équipe de la CENI pour les encourager à bien organiser les élections. La population doit être tranquille et doit accompagner le processus parce que ce sont leurs élus qui, à leur tour, vont élire le gouverneur et son vice, ainsi que les sénateurs. Donc, qu'ils soient apaisés. Nous encourageons aussi les candidats eux-mêmes, ainsi que les députés provinciaux, à suivre les principes de moralité. Nous ne voulons pas que l'argent ait trop d'influence sur le choix. Nous voulons plutôt que ceux qui seront votés, que cela soit le reflet de la préférence de la population. De cette façon-là que nous allons avoir des élus légitimes et qui vont rendre compte à la population plutôt que de rendre compte à ceux-là qui leur auraient donné quelque chose.
Pendant ce temps, au Kassai oriental, l'Assemblée provinciale a désormais son bureau définitif. Le député provincial Willy Mouyamou Kendi de l'UDPS est le nouveau président de cet organe délibérant. Il a remporté cette élection au deuxième tour avec 19 voix contre Eugénie Tilanda Kazadi de 2ATDC. D'autres membres du bureau définitif qui ont également été élus sont Jean-Paul Mboma de 4AC, élu vice-président, Faustin Toumba de l'AV et le nouveau rapporteur Trésor Lukusa de l'AFDCA, rapporteur adjoint, Ruth Kaikwamoua de l'AV est la seule femme de ce bureau définitif. Elle occupe le poste de questeur. Le nouveau président de l'Assemblée provinciale du Kassai oriental promet de travailler dans l'intérêt du peuple et de bien gérer les finances et de résoudre efficacement tout conflit interne. Commémoration hier 24 avril de l'anniversaire de la mort de Papa Wemba, décédé en 2016. C'est depuis 8 ans donc que mourait la star congolaise Jules Chung Wemba Diop Nkikumba, dit Papa Wemba, patron de l'orchestre Viva la Musique, autrement appelé le roi de la rumba congolaise et de la sap. Pour la petite histoire, Papa Wemba est mort en Côte d'Ivoire sur la scène de la 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA. Il était le parrain de cette édition-là. Christelle Fritimangwa retrace ici quelques temps forts de la carrière de Papa Wemba, une des légendes de la musique africaine dont la date de décès, soit le 24 avril, a été dédiée à la célébration de la musique africaine par l'Union africaine. Suivez.
Avec près de 50 ans de carrière, il est considéré comme une des légendes de la musique congolaise et africaine. S'il n'est pas le créateur de la rumba congolaise, il en est un pilier et propulse ce genre à l'échelle internationale. La rumba reste sa référence malgré le fait qu'il aborde d'autres styles comme le rock, le ndombolo et le world music. En 1969, il est le cofondateur de Zaïko Langalanga avec Josarnio Kalongo, Ivo Loco, Pepe Feli et Andy Bimiombale. Il quitte le groupe en 1974 pour fonder ici Filokole, puis Yokalokole. En 1977, il fonde Viva la Musica. À la fin des années 1970, Papa Wemba est un des représentants le plus célèbre du mouvement de la SAP. Il est le deuxième artiste congolais, le premier étant Tabulei Rochero, à signer avec un éditeur musical international, Real World, de Peter Gabriel, avec qui il publiera 3 albums. Il meurt le 24 avril 2016 à Abidjan, Côte d'Ivoire, d'un malaise cardiaque à l'âge de 66 ans, alors qu'il se produisait à la 9e édition du Festival de musique urbaine d'Anoumabo. Je suis
Notez que pour rendre hommage à Papa Wemba à l'occasion des 8 ans de sa disparition, des concerts sont programmés le week-end. À Bukavu, le chanteur Franck Issa Le Rossignol, qui a eu à prester aux côtés de Papa Wemba, va se produire le dimanche 28 avril en hommage à son idole. Mais dès aujourd'hui, jeudi 25 avril ici à Kinshasa, l'orchestre Banaviva, constitué des anciens musiciens de Viva la Musica, livre un concert au couloir Papa Wemba, ex-couloir Madiankoko.
Actualité internationale.
Israël lance une action offensive dans le sud du Liban, alors que la guerre fait toujours rage à Gaza. Un autre front, plus au nord, entre le Liban et Israël, fait craindre une escalade régionale. Israël a affirmé hier avoir lancé une action offensive sur le sud du pays.
L'invité.
Il n'y a pas de problème de rupture de stock de carburant. C'est plutôt un problème logistique qui est déjà réglé et la situation va reprendre normalement tout au plus dans les 48 heures. C'est le ministre Didier Boudimbo qui le dit dans une interview exclusive à Radio Okapi et réagit sur quelques perturbations constatées à Kinshasa dans le ravitaillement des stations-service après que la CEP a décidé d'adapter ses horaires de travail en supprimant ses rotations du soir et du week-end faute d'argent et ainsi compenser le manque de paiement de la part de certains clients dont le gouvernement congolais. Didier Boudimbo, ministre des hydrocarbures, s'entretient avec Cynthia Bachizi-Nabizana.
Monsieur le ministre, bonjour.
Oui,
monsieur le ministre Didier Boudimbou, la CEP a décidé d'adapter ses horaires de travail en supprimant le travail de nuit et de week-end. Raison avancée, c'est une incapacité financière, notamment aussi parce que le gouvernement a du mal à honorer ce qu'on appelle un peu le manque à gagner que le gouvernement doit à certaines sociétés pétrolières, mais aussi à la CEP. Est-ce que vous avez une réaction à ce stade?
La réaction est simple, il y a un travail qui a commencé pour pouvoir régler ce manque à gagner. Je pense que dans les jours ou semaines à venir, on pourra régler ce problème parce qu'il n'y a même pas 2-3 mois, il y avait une grande partie qui avait été réglée, 123 millions pour toutes les sociétés. Et je pense que CEP, dans cette tranche, avait perçu près de 10 millions de dollars. Et là, nous allons continuer. Mais entre-temps, pour pouvoir soutenir CEP et permettre à CEP de faire son travail, qui est de pouvoir approvisionner les stations, et parce que là, ils ne travaillent plus de nuit ni le week-end, mais ils ont pu avancer de l'argent à CEP. Et je pense qu'ils ont déjà reçu ça aujourd'hui, parce que ça a été signé depuis hier par le ministère de l'économie, à hauteur pratiquement de 2 millions. Il y aura un autre complément. Et avec ça, ça va permettre à CEP de pouvoir reprendre le travail et de pouvoir servir, que ce soit de nuit ou même le week-end. Donc logiquement, la situation va revenir à la normale d'ici 24 ou 48 heures.
Comment rassurer sur le long terme des partenaires comme la CEP qui aujourd'hui ont décidé de faire un peu ce coup de force-là, mais comment le rassurer sur le long terme avant avant d'en arriver à ces situations?
Je ne pense pas que c'est un coup de force qu'ils ont tenté de faire. Je pense qu'ils ont demandé ce qu'on leur devait. C'est une chose qui n'est que logique. Et pour le reste, je pense que quand les gens sont payés, rémunérés tel qu'il faut, ils font bien leur travail. Et à ce jour, on ne peut que féliciter que ce soit CEP, que ce soit le RESCOM, parce que ce sont nos logisticiens, que ce soit SOCIR aussi, qui font bien leur travail et qui permettent que, malgré tout ce qu'il y a comme difficulté au niveau mondial, que l'approvisionnement dans la ville de Kinshasa et même dans la République démocratique du Congo a toujours été bien fait. Vous allez voir que la plupart des crises qui se passent dans d'autres capitales africaines et dans d'autres pays même qui sont grands producteurs du pétrole, il y a des exemples sont les gens au Congo, à Kinshasa, ça n'arrive pas parce que nous avons des bons logisticiens comme CEP, comme SOCIR, comme le RESCOM, et il y a toujours des difficultés, mais on arrive à le surmonter ensemble. C'est ça qui est le plus important.
Il y a une action de syndication qui avait été prise par, je pense, 4 banques commerciales qui s'étaient engagées en tout cas à avancer cet argent au gouvernement pour régler son manque à gagner. Aujourd'hui, est-ce que c'est une situation qui a été réglée comme cela avait été annoncé il y a quelques mois?
Oui, il y a 123 millions qui ont déjà été décaissés, qui ont déjà été payés. Maintenant, nous sommes en train de travailler pour pouvoir avoir encore un surplus. Et je pense que dans les jours, semaines à venir, il y aura des actions qui vont être menées, voire un autre décaissement qui pourra favoriser ce paiement-là des manques à gagner.
Et donc aujourd'hui, toute la situation est sous contrôle de votre côté et qu'il n'y aura pas de crise de carburant dans les jours ou dans les mois à venir?
À ce jour, il n'y a pas de crise de stock de carburant, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de pénurie. Le problème était logistique et je pense qu'il est réglé. Vous pouvez essayer de joindre le DG de CEP aussi, il pourra encore mieux vous éclairer. Ce n'est pas non plus facile que ce soit pour le gouvernement parce que notre carburant est subventionné à près de 55%. Donc chaque litre que le Congolais consomme quand il va à la station, la moitié du prix ou un peu plus de la moitié est payée par le gouvernement, est prise en compte par le gouvernement. Et s'il faut calculer à l'ouest du pays, nous sommes à une consommation entre 50, 55 et 60 000 mètres cubes le mois. Donc calculer, ça fait combien de litres? Et en termes de litres, la moitié est payée par l'État. Quand vous remontez du côté du sud, c'est pratiquement la même chose. Donc ça fait que l'État congolais prend beaucoup parce que c'est la vision du chef de l'État de soutenir le peuple congolais, de soutenir sa population. Parce que sans ça, je pense que les prix des denrées alimentaires aller voler et puis en même temps si le transport allait encore, le prix allait se multiplier. Donc il y a des efforts que le gouvernement fait et des fois nous avons ces difficultés parce qu'avec la guerre qui nous est imposée pour rassembler les ressources pour pouvoir régler ces subventions, mais on le fait tant mieux que mal et on y arrive et on s'en sort bien jusque là.
Monsieur le ministre Didier Boudimbou, je vous remercie.
Merci madame.